وصحبه ومن والاه الى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. شيخ سيون اسلام، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de commencer un programme destiné au public, monsieur, hein, qui était déjà habitué depuis plusieurs années au cours de tafsir qu'on faisait, alhamdoulilah, depuis 2003, ici dans la masjid al-Madina de la Tanié. Monsieur, à toi, alhamdoulilah, ce soir, nous avons la possibilité de faire profiter, hein, de partager ce coup à cette richesse énorme qui est les lectures du Coran ainsi que l'explication des versets à nos mères et à nos sœurs. Et c'est juste jusqu'à maintenant, on pourrait dire un manquement de notre part, hein, de ne pas faire partager la science religieuse, de ne pas faire le tablir al-risala, de ne pas propager la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam au public féminin. Alors que, subhanallah, si nous regardons comment fonctionne une maison, nous voyons que la quiétude, la sakina, la tranquillité d'une famille, elle est basée principalement sur le comportement, le caractère de la femme, de l'épouse. C'est-à-dire une femme qui a compris les ordres d'Allah Azza wa Jal concernant sa situation, une femme qui a compris l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde dans ce dunya et l'honneur qui lui est réservé dans l'au-delà si elle a vécu conformément aux ordres d'Allah, c'est une femme qui assurément va vivre en fonction des principes du Coran, en fonction des principes de la sunna. Et une femme qu'on dit pieuse, qui va faire ses salats, ses dhikrullah, sa lecture du Coran, bref, qui va pratiquer sa religion, qui va s'habiller de manière correcte, qui va avoir également donc un comportement correct envers son mari, tout comme son mari a un comportement correct envers elle, ce sera avant tout une excellente épouse. Et ce sera également une excellente mère de famille. Donc si dans la maison le climat est apaisé, il y a une pratique religieuse permanente de la part de chaque membre de la famille. Ce n'est pas uniquement le monsieur, le papa qui vient à la masjid et pendant ce temps l'épouse est à la maison, soit elle est devant la télé, soit elle est, je ne sais pas, en train de parler avec ses amis au téléphone et elle ne fait pas les prières à l'heure, elle ne veille pas à ce que les enfants accomplissent leurs prières également. La responsabilité, elle sera sur les épaules du père. Parce qu'il n'a pas rempli son rôle de papa en sensibilisant son épouse et ses enfants quant à leur rôle, à leur situation de mu'min, mu'mina, de musulman et de musulmane. Et très souvent, lorsqu'on fait des rappels, hein, le vendredi, hein, pour la prière de Jum'a, ou les différents programmes qu'il y a dans toutes les mosquées, le matin, après Fajr ou parfois le soir après Isha, ben nous nous rendons compte que ces programmes, en général, sont destinés au public qui vient à la mosquée, à la masjid. Ce qui fait que les messieurs, alhamdoulilah, ils ont la possibilité d'écouter régulièrement, de comprendre, d'apprendre des choses, des masa'il, ça peut être du fiqh, ça peut être des hadith, des paroles du Prophète, ça peut être le tafsir, les commentaires du Coran, d'accord. Mais nos mères et sœurs à la maison, mis à part celles qui maîtrisent un petit peu l'outil informatique, qui peuvent télécharger des programmes et écouter par le biais d'internet, mais mis à part celles-là, la plupart de nos mères et nos sœurs à la maison n'ont pas accès à la science religieuse. Et une pratique des a'mal, des actions, sans se ressourcer spirituellement, c'est une pratique qui risque de montrer ses limites. Une personne qui fait la salat, très bonne chose, elle accomplit son pilier, son devoir de l'islam, mais si la personne, en parallèle, ne continue pas à apprendre sa religion, la personne n'avancera pas de le dîn. Parce que quand on entend les paroles d'Allah avec les explications, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des explications régulièrement, on peut découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir des aspects, des actions qu'on mettait déjà en pratique mais qu'on ne connaissait pas, et du coup les mettre en pratique. Et une pratique éclairée, une pratique basée sur la science religieuse, est une pratique qui aura beaucoup plus de valeur auprès d'Allah qu'une pratique qu'on a appris et qu'on le fait, même si c'est régulièrement, mais sans réellement saisir, comprendre les tenants et les aboutissants de l'action. D'où l'importance du tafsir. S'il y avait même un programme qu'on devait faire partager à nos mères et à nos sœurs en priorité, plutôt que de parler des signes de Qiyam, hein, plutôt que de parler d'autres choses, ce serait vraiment les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de tafsir, l'objectif du tafsir, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala véhicule comme message pour chaque mu'min, mu'mina, depuis l'époque où le verset a été révélé, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au qiyam, afin que ces personnes tirent les leçons de sagesse qu'il y a dans les paroles d'Allah, et surtout que ces personnes puissent les mettre en pratique. C'est pour ça que sur l'affiche on avait écrit « Lire le Coran, découvrir sa traduction, comprendre le sens des versets et enfin mettre en pratique ». L'étape finale, qui est l'objectif de la révélation, c'est de vivre le Coran. Lorsqu'on demandait aux époux du prophète sallam comment était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, répondait « Kana khuluquhu al » Al Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a le Qur'an, c'est une révélation, c'est une lecture, on peut l'écouter, mais puis on parle de son comportement. C'est-à-dire la pratique, la mise en pratique des ordres, des interdits concernant les actions, les ibadat, les akhlaq, le comportement. C'est-à-dire le Qur'an regroupe la vie du musulman. Et donc l'objectif de ce cours de tafsir, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à travers les versets. Et nous avons sélectionné les versets du surat Amma Yatasaaloun. Depuis pas mal d'années, alhamdoulilah, Allah nous donne le tawfiq de nous concentrer sur les surahs qu'on lit régulièrement dans la prière, ou alors qu'on entend le imam lire dans la prière. On aurait pu commencer par Alif Lam Mim, soit le Baqara, mais en général, les gens connaissent par cœur les surahs de Amma. Au moins trois quarts du juz de Amma, les gens connaissent plus ou moins par cœur. D'accord ? Et donc, quand la personne va lire le Coran à sa maison, la personne va se rappeler de ce qui a été dit dans le programme de tafsir. De même, quand la personne va écouter le imam lire, la personne là aussi va comprendre, Inch'Allah, ce qui est dit et se rappeler des enseignements de ce verset par rapport au dars, au cours de tafsir. Et quand la personne va faire sa salah, elle va lire « Qulhu Allahu Ahad », elle va lire « Alhamdulillahi Rabbil Alameen », elle va lire « Tabbat yada bil habi wa tab », elle va lire « Waylu likulli humazatin numaza », la personne va réellement comprendre quel est le sens du verset. Parce qu'il y a la traduction littérale du Coran, mais la traduction ne nous donne pas une compréhension totale et précise du verset. La traduction nous donne le sens apparent, j'aime pas utiliser le terme apparent, mais le sens premier du verset. Mais quand on lit les kutub, les livres de tafsir, on se rend compte comment les grands mufassirs de l'époque, et avant, et en premier lieu Ibn Kathir, rahmahullah, Imam Qurtubi, etc., comment est-ce qu'ils ont pu faire istinbat, ils ont pu retirer les enseignements dans chaque verset. Il y a peut-être un verset qu'on connaît, le surat de ce soir, c'est Waylul lil mutaffifin. C'est un verset, c'est un surat que tout le monde connaît. Et quand on parle de Waylul lil mutaffifin, ceux qui ont lu la traduction, ils ont une idée précise de l'objectif du premier verset. On parle de fraude, de personnes qui trompent son prochain. Mais quand on lit le tafsir et les commentaires, on se rend compte que le ayah, le verset est beaucoup plus profond que ce que nous comprenons à travers la traduction. Vous analysez la traduction de Waylul lil mutaffifin dans la meilleure des traductions, meilleure édition en français, on vous dit malheur aux fraudeurs. Et quand on connaît le terme fraudeur, on a tout de suite compris de quoi on parle. Ce qui veut dire que par le biais d'une simple traduction, on ne peut arriver au sens réel du verset. Mais par contre, quand on va lire le tafsir de ce surah, de ce verset, de tous les versets du Coran, là nous comprenons vraiment qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit, quel est le message qu'Allah Azza wa Jal veut faire parvenir au cœur du mu'min afin qu'il le mette en pratique. Donc, Inch'Allah, on va essayer de rester ferme avec Estirama sur ce programme. Le programme durera 40 minutes, au maximum 45 minutes, on ne dépassera pas. Et les recommandations qu'on avait données la dernière fois, on avait dit que c'est un programme donc pour hommes-dames. Et les dames qui viennent idéalement, ce serait bien qu'elles viennent avec leur mahram, avec leur mari, leur papa, ou leur frère, leur oncle. Et sachant que la salat al-Isha est un peu tard, donc le programme va se terminer à 9h30 à peu près, pour que lorsque ces dames quittent la masjid, elles ont une personne pour les accompagner, pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Ça c'est vraiment l'idéal. Et ce qui est intéressant, c'est quand un homme et sa femme sont dans la masjid, ou un papa et sa fille, ou alors un frère et sa soeur dans la masjid, ils écoutent la même chose. Quand ils arrivent à la maison, ils peuvent également le propager aux gens de la maison, et surtout ils peuvent le mettre en pratique ensemble lors d'une situation de la vie. Dire attends, n'oublie pas que on avait entendu dans la masjid telle recommandation, telle action à faire, telle action à ne pas faire. Donc il y a un encouragement mutuel à l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc Donc on démarre le tafsir. Bon, on avait déjà commencé la dernière fois avec quelques versets, mais comme on avait dit que lorsqu'on ouvrira le programme pour nos sœurs, Inch'Allah, on va reprendre un petit peu depuis le début pour qu'on suive bien le fil. A'oud billahi minash shaytan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim, waylun lil mutaffifin, alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawm min azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Dans ce premier couplet de versets, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux musulmans, à chaque personne qui va lire ces versets, en c'était un malheureux fraudeur qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exige la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Le Surat al-Mutaffifin commence par une mise en garde, al-Wail. Et on avait vu que le terme Wail revient souvent dans le Coran, c'est une mise en garde qu'on appelle un Wa'id, lorsqu'une personne transgresse les ordres d'Allah. Et on avait vu que désobéir aux ordres d'Allah, c'est deux choses. Désobéir aux ordres d'Allah, très souvent, on pense que c'est faire un péché. Certes, l'accomplissement d'un péché, c'est transgresser aux ordres d'Allah. Ça fait partie du haram. Ça fait partie des choses qui sont interdites. Mais quand on parle de transgresser les ordres d'Allah, c'est également abandonner un devoir. Un musulman qui abandonne volontairement une prière, un musulman qui abandonne volontairement une prière à la mosquée, en congrégation, en jamaat, alors qu'elle a la possibilité de le faire, cette personne transgresse les ordres d'Allah. Donc, al-wayl, le wa'id, la mise en garde, c'est pour une personne qui va transgresser les ordres d'Allah, va faire un haram ou va négliger quelque chose qui est obligatoire, qui fait partie de ses devoirs de musulman. Et là, ça nous permet de bien comprendre le sens profond du ibadah pour le musulman. Le sens profond du ibadah, c'est avoir une aqida sahiha, avoir une croyance saine, c'est accomplir des bonnes actions dans nos relations avec Allah, dans les ibadah, c'est également bien agir envers les gens, dans nos transactions, dans nos rapports avec les gens dans la société, c'est ce qu'on appelle le mu'amala, et d'avoir un akhlaq, un comportement irréprochable avec nos proches, principalement les parents, avec notre famille, la femme, les enfants, avec les voisins, avec les gens plus éloignés, et d'une manière générale, chaque personne qui a la ilaha illallah de son cœur ou qui n'a pas la ilaha illallah de son cœur. Ça, c'est le akhlaq du musulman, un comportement exemplaire avec tout être humain, sans distinguer celui qui a iman qui n'a pas iman. Même celui qui n'a pas la ilaha illallah de son cœur doit être respecté, et nous devons avoir le même akhlaq avec lui qu'avec un frère ou un proche, parce que ce sera là un signe de respect pour lui, et ce sera là le premier da'wa, la première invitation vers l'islam. Tout commence par le akhlaq. Donc nous comprenons que la pratique de la religion, c'est un tout. Il y a parfois, il y a des gens qui se disent que moi je viens pas à la mosquée, je fais pas les bonnes actions, mais je viens en aide aux pauvres. Hein, je donne beaucoup pour la mosquée, pour les associations, je travaille beaucoup dans le social. Hein, comme on dit aujourd'hui, travailler dans le social. C'est une bonne chose, la sadaqa, les aumônes, etc., le awqaf, ce sont là de très bonnes actions, il n'y a rien à dire, mais les actions que nous accomplissons dans nos relations avec les gens ne pourront nous procurer le contentement d'Allah tant que ces actions-là ne seront pas accompagnées des actes obligatoires dans l'ibad, dans notre relation avec Allah. La base, c'est l'accomplissement des cinq piliers. Les salats, le somme, etc., etc. Avec ça, une personne travaille dans le social. C'est nourun ala nour, c'est encore mieux pour elle. Mais il faut faire attention que Shaytan ne nous détourne pas de notre objectif, ne nous fait pas croire que tu n'as pas besoin de venir à la mosquée, tu n'as pas besoin de faire tes prières parce que tu fais déjà beaucoup pour la communauté. Tu es responsable de telle association, tu viens en aide aux gens, tu vas distribuer la nourriture, tu aides les gens. C'est certes une très bonne action, mais cela ne remplacera pas les les umur ta'abudi, les actes d'adoration que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, une personne peut se dire que moi je fais mes 5 prières. Maintenant, si dans la vie de tous les jours, dans mon travail, je suis quelqu'un de très dur en affaires, de très complexe, très compliqué, sans pitié, je ne pardonne à personne et je suis parfois pas très honnête dans mes transactions, mais de toute façon, je viens à la salah. Qui c'est que tu vois en premier dans la masjid? C'est moi. Donc ne regarde pas mes transactions, ne regarde pas si ma manière de travailler est licite et pas licite, si je travaille avec le haram, l'intérêt ou pas l'intérêt. Moi, je suis là à la masjid. Donc Allah va me pardonner. Parce qu'il y a des hadiths qui disent entre chaque salat, tu accomplis les wudous, les ablutions, tes péchés sont effacés. Donc mon compte, il est remis à zéro à chaque salat. Cette personne aussi a été trompée par Shaitan. Une personne peut se dire que moi je reste auprès de ma maman. Ma mère elle est âgée, je reste auprès d'elle, je fais son khidma. Chose qui c'est le summum en termes de ibadah, fait être proche de ses parents. Que la première ordre d'Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. L'ordre d'Allah c'est de n'adorer que lui, et juste après l'ordre d'adorer Allah, Allah demande d'agir correctement envers ses parents. Donc c'est quelque chose d'énorme en termes de hasanat, de récompense que cela peut procurer. La personne se dit, mes parents sont âgés, moi je ne vais pas les mettre dans une maison de retraite. En parenthèse, hein, parce qu'on aime bien faire des petites parenthèses pour qu'on puisse faire une relation avec ce que nous vivons et ce que nous disons. Un reportage à la télévision, un documentaire il y a 3 semaines, ou plus c'est dans les vacances scolaires, c'était dans les actualités. On montre en Amérique, rien à voir avec Al-Mutafifin, mais c'est un enseignement important. On montre en Amérique qu'il y a un projet maintenant, il y a des enfants, des personnes âgées, des adultes je veux dire, hein, des pères et des mères de famille, qui ont leurs parents qui sont encore vivants. Et maintenant, vu le coût de la vie et la crise économique, etc., qu'ils ont même provoqué, d'accord, ils ne trouvent plus les moyens pour mettre leurs parents dans les maisons de retraite. Donc ils culpabilisent. En fait, c'est avant qu'ils devaient culpabiliser. C'est pas maintenant. Mais maintenant, ils culpabilisent. On n'a plus 2 000 $ par mois pour mettre grand-père, enfin pas grand-père, papa, le vieux, hein, je sais pas de, comment on dit en anglais, the old, hein, le vieux ou la vieille, na'ouzubillah, on peut plus payer l'hospice, la maison de retraite. Donc ils se grattent la tête. Parce que bien sûr, il n'est pas imaginable de laisser papa et maman vivre sous notre toit. Na'ouzubillah. Quelle reconnaissance, quelle relation entre parents et enfants. Un papa, une maman qui a élevé cet enfant depuis qu'il est bébé, qui a passé les nuits à donner le biberon, à changer les couches, à lui faire grandir, à lui apprendre les bonnes manières, à devenir propre, à s'habiller seul, à devenir autonome, à manger proprement, à se tenir bien à l'école, à réussir sa scolarité, à avoir son brevet, son bac, payer ses études à l'université, jusqu'à ce que cette personne devient un médecin, il devient un ingénieur, il devient un avocat, il devient, bref, quel que soit le métier, il devient mécanicien, il devient un jardinier, c'est-à-dire n'importe quelle fonction que nous occupons du moment que nous gagnons notre vie de manière licite, halal. Tout ça, c'est quelque chose de vertueux. Alors ce papa, cette maman qui a élevé cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un, un maillon de la société qui fait avancer les choses. Cet enfant, il a grandi, il est devenu un tel profession, il s'est marié, on est content. On l'a même aidé pour son mariage. On l'a même aidé pour aménager sa maison, pour acheter les premiers meubles, sa voiture, etc. On lui a donné un coup de pouce parce que maman, il vient de commencer à travailler, il n'a pas trop d'argent. On l'a aidé à démarrer de la vie. Maintenant, il est devenu papa lui-même, alhamdoulilah, on est grand-père, on est content. Ce même enfant, pour lui, il est inimaginable que maintenant mon père, ma mère, qui m'a tout donné pourtant, habite sous le même toit que moi. Ça, c'est la réalité de la société occidentale. On n'accepte pas que les parents vivent avec leurs enfants. Donc, il faut les mettre en maison de retraite. Ils ont 80 ans, 85 ans, on ne va pas s'occuper d'eux. Si seulement, Allahu Akbar, ils avaient reçu l'enseignement prophétique qui dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. L'enseignement prophétique qui dit que parmi les doigts qui sont acceptés par Allah, le doigt d'un papa pour son fils. Si seulement ils savaient les vertus qu'il y a à être proche de leurs parents dans les moments de vieillesse, plus encore que quand le papa a 45, 50 ans, quand le papa a 80, 90 ans, il y a encore plus de récompenses à s'occuper de lui que lorsqu'il a 45 et 50 ans. Parce qu'il devient âgé, il devient un peu plus dépendant et avec tout ce qui vient avec. Bref, pour revenir à notre histoire, donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée ingénieuse, on pourrait dire ça comme ça, de construire une cabane médicalisée dans sa cour. Et la personne est fière. La personne est fière, elle monte, elle fait visiter la cabane, il dit que voilà, maintenant, voilà, on a construit ça pour ma maman, elle dort là, voilà son lit, il y a un petit placard, il y a les toilettes, il y a tout ce qu'il faut pour les personnes âgées, pour les barres, pour tenir, pour pas qu'elle tombe. On a mis des caméras, moi si elle est pas bien, ben on peut voir à travers un écran, on peut venir, on peut l'assister, elle a un tensiomètre, elle a un truc pour mesurer le sucre dans le sang, elle a tout ce qu'il faut. Et ces enfants-là, ils sont fiers. Cette personne qui parlait, c'est vraiment comme si que c'est la personne le plus bienfaisant vers ses parents. Donc le maximum de birrul walidain, de respect envers les parents, ben c'est le reportage qui a été montré à la télévision. Il dit que ça va se généraliser en Amérique et peut-être arriver en France. Alors que dans une famille musulmane, les plus grandes récompenses qu'on peut obtenir, c'est d'être proche de nos parents jusqu'à leur dernier souffle. Jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde, plus on aura fait pour eux, plus on aura le contentement d'Allah. Que ces parents-là soient musulmans ou non. Que mon père et ma mère soient musulmans ou qu'ils ne se soient pas convertis, le devoir reste exactement le même. Sauf qu'on ne les obéit pas dans ce qui est haram, dans les actes interdits. Et donc il y a des gens qui, pour revenir à ce qu'on disait, des gens qui se disent que voilà, cette action elle est merveilleuse, je le fais. Je reste avec ma mère, mon papa qui est âgé, du matin au soir. Et la personne ne fait pas ses prières. Elle se dit que de toute façon, de le Coran, elle écrit telle chose, le hadith dit que le paradis se trouve sous le pied de la maman, donc je suis proche de ma mère. Je ne fais pas mes prières, mais je suis proche de ma maman, donc je vais avoir le paradis. Cette personne a également été trompée par Shaitan. L'islam, c'est une pratique qui concerne toutes les branches de notre vie. Donc, waylul lil mutaffifin. Et on avait vu la traduction de mutaffifin, c'est fraudeur. Et quand on parle de fraude, et c'est le sens qui vient à l'esprit, c'est la métaphore utilisée dans ce verset, c'est la description, pardon, du verset, cela concerne la personne qui, dans ses transactions, trompe les gens, dans la pesée. Mais lorsqu'on lit le tafsir, on se rend compte que les mufassirin disent que وهذا المثال الذي ذكره الله تعالى في الكيل والوزن هو مثال فيقاس عليه كلما أشبه. Ce n'est là qu'un exemple qu'Allah a donné dans le verset. Mais par rapport à cet exemple, par analogie, on va calquer tout comportement où il y a une fraude envers son prochain. Parce que le verset parle de ces gens qui, lorsqu'ils sont de leur droit, ils veulent tout leur droit. Ils ne sont pas prêts à abandonner un pourcentage de leurs droits. Mais lorsque c'est eux qui doivent aux gens, là ils font preuve d'injustice. C'est-à-dire que la personne, quand elle va acheter quelque chose, elle veut qu'on lui donne sa marchandise comme elle a acheté au gramme près. Mais quand c'est lui qui vend, il va tromper l'autre. Ça, c'est de la fraude. Et c'est le sens de fraude qu'on connaît, hein, en tant que commerçant, en tant que consommateur également. Mais le verset parle de toute personne qui exige quelque chose, mais quand c'est lui qui est redevable, la personne n'assure pas. Et l'exemple qu'on a vu la dernière fois, ce que le Moufassaline donne, il dit que le mutaffif, c'est certes ce commerçant qui trompe son client, mais c'est également, et c'est là qu'on ne pouvait pas s'imaginer sans lire le tafsir, c'est également un zawj, un mari, qui est extrêmement exigeant envers sa femme concernant les devoirs. Mais lui est négligent envers sa femme concernant ses devoirs à lui. Vous avez également, c'est un mari qui est très sévère, qui veut que sa femme ne parle avec personne, aucun monsieur, qui est très possessif. Mais lui, c'est un Casanova, fait la fiesta, il est bien avec toutes les dames et tout. C'est un comportement injuste, déséquilibré. Un mutaffif, un fraudeur, c'est également un père qui exige un maximum de respect de la part de ses enfants. Mais lui, papa, ne donne pas à ses enfants ce qu'il doit leur donner en termes de devoir. Donc, dans toute action où il y a un déséquilibre, une transgression, ça fait partie du verset waylul lil mutaffifin, malheur donc au fraudeur, la personne qui exige beaucoup, mais quand c'est à lui de le faire, la personne ne le fait pas. Et comme on avait dit la semaine dernière, quand on opprime une personne, que ce soit le mari qui opprime sa femme, que ce soit le papa qui opprime ses enfants, que ce soit le commerçant qui fait vol sur un client, que ce soit, quel que soit le cas de figure, quand on est injuste quand on fait preuve de zulm envers une personne, c'est une faute grave qui ne peut être réparée sans obtenir le pardon de l'opprimé. Et cela contrairement aux actes d'adoration. Ce que nous, en guillemets, nous devons à Allah, Allah peut le pardonner. Ou s'il y a un manquement, il y a des actions pour le rattraper. Quelqu'un qui n'a pas fait sa salat va rattraper sa salat. Quelqu'un qui avait oublié de donner l'aumône, la zakat, elle pourra le donner par la suite en rattrapant les mois passés. Quelqu'un qui a fait une erreur dans la prière, la personne peut toujours réparer sa salat en accomplissant la prosternation de l'oubli, c'est jatou sahou. Quelqu'un qui a fait une faute dans son hajj, dans le pèlerinage, la personne peut compenser par un fidya, une petite aumône, ou si c'est une faute plus grave, par un dam, par le prix du sang, en sacrifiant un animal, pour compenser une erreur grave de le hajj. C'est-à-dire, dans nos relations avec Allah, il y a toujours la possibilité d'être pardonné par Allah, ou d'être... ou qu'Allah yani, passe sur l'erreur par le biais d'autres actions qui vont compenser l'erreur. On a vu la dernière fois que le jour des comptes, une personne se présentera devant le tribunal d'Allah sans avoir accompli ce salat. Et les hadiths précisent Insha'a azzabahu wa insha'a ghafara lahu. Si Allah le veut, Allah pardonnera cette personne. Mais si Allah le veut, Allah va punir cette personne. C'est-à-dire, c'est tahta mashi'atillah. Ça reste selon la volonté d'Allah. Parce que là, on a transgressé une obligation vers Allah. Mais quand on a manqué de respect à une personne, lorsqu'on a transgressé une obligation, on veut dire, huququn nas envers les gens, on pourrait demander toutes les nuits de notre vie, tawbah Allah. Tant qu'on ne demandera pas pardon à la personne, Allah ne pardonnera pas ce péché. Allah n'ordonnera pas aux anges d'effacer ce péché de notre livret de compte. Allah n'ordonnera pas à la terre où le péché a été accompli d'oublier ce péché. Parce que vous savez, mes chers frères et sœurs, quand un musulman accomplit un péché, les anges écrivent, et Allah avant tout il le sait, les anges écrivent, les membres enregistrent le péché pour pouvoir un jour témoigner contre cette personne le jour des comptes. Mais également la terre où on accomplit le péché retient l'erreur pour témoigner contre nous le jour des comptes. Mais quand quelqu'un obtient le pardon pour un péché, Allah ordonne aux anges d'oublier et à la terre d'oublier. Il n'y a plus aucune trace. Ça c'est dans les péchés concernant les droits d'Allah. Mais quand on a opprimé quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, j'ai insulté mon frère, je l'ai humilié en public, j'ai accusé sa femme d'avoir fait des choses qu'elle n'a pas faites, je lui ai volé son argent, je ne l'ai pas remboursé sa dette, j'ai fait le riba, la calomnie, la médisance, le qila wa qal, j'ai colporté des fausses nouvelles ou même des vraies nouvelles, mais dans le but d'humilier la personne, je peux demander tawbah même la nuit du destin, Laylatul Qadr. Je peux demander tawbah même le wukuf à Arafat, lors de la station de Arafat pendant le Hajj. Allah ne pardonne pas ce péché tant qu'on n'ira pas voir les gens, parce que ça c'est huququn nas et c'est extrêmement grave. Les manquements envers les gens, c'est pour ça que le verset met en garde contre la personne qui transgresse par rapport aux droits des gens, qui ne donnent pas les droits des gens alors qu'eux ils exigent leurs droits complètement. Et ce n'est pas pour rien si notre prophète alayhi salat wa salam a demandé aux sahaba, ça c'est le tafsir de ce verset, man ta'udun al muflisa fikum, hadith qu'on avait vu, de lequel le prophète a dit qui est la personne démunie. Les sahaba ont dit au prophète d'Allah, inna al muflisa min ummati, ya rasulallah, man la dirham indahu wa la mata'. Le muflis, la personne démunie, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. Si on demande à un sociologue ou n'importe qui, décrivez-moi qui est un pauvre, qui est une personne qui vit dans le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, qui n'a pas assez d'argent pour ses factures d'électricité, ou qui ne mange pas à ventre plein. Bref, il y a différentes descriptions pour comprendre qui est quelqu'un qui vit aux limites ou sous le seuil de la pauvreté. D'accord ? Mais le prophète alayhi salatu wa sallam dit non, oh mes sahaba, la personne démunie, La vraie personne qui sera pauvre, c'est la personne qui, le jour de Qiyama, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتَ مِثَالَ الْجِبَالِ. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec des bonnes actions aussi grandes que les montagnes. C'est quelqu'un qui a fait une vie de bonnes actions, de a'mal saliha. Mais fayati wa qad zalama hadha wa shatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mal hadha. Mais cette personne dans ce dunya avait opprimé d'autres personnes. Il les avait insultés, il avait frappé, il avait volé l'argent de son prochain. Alors il se présente devant Allah avec des salat, avec qiyamul layl, tahajjud, dhikrullah, lecture du Coran, sadaqa, umun, aide envers les pauvres, plein de choses. Mais également avec les oppressions, les actes qu'on a cités, les conséquences c'est que hadith disent que la personne, même si elle aura passé le siraf, le pont, avec grande facilité, avant l'accès au paradis, on ramènera la personne. On attrapera cette personne, ce seront les opprimés qui vont venir réclamer leurs droits. Et là, Allah Azza wa Jal va ordonner aux opprimés de prendre en compensation les bonnes actions que la personne a accomplies. Vous avez fait tellement de bonnes actions, les opprimés viennent, ils prennent vos hajj, vos umrah, votre lecture du Coran, votre dhikrullah, parce que de ce dunya, vous les avez insultés, opprimés, fait telle et telle chose. Et s'il n'y a plus rien à leur donner, Allah ordonnera aux anges de prendre leurs péchés, de mettre dans nos livrets d'action, de mauvaises actions. Alors que j'ai jamais bu une goutte d'alcool dans ma vie. J'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. J'ai jamais fait le zina à l'adultère. J'ai jamais pratiqué l'homosexualité de ma vie. Mais ces péchés-là vont être greffés dans mon livret de compte parce que j'ai fait du tort à ces gens. Vous voyez comment ça va loin? Comment c'est extrêmement grave? Pour ça, on insiste toujours quand on parle de la mort. Quand on parle aux héritiers, qu'on essaie de faire un rappel, dit que faites très attention. Hein, d'accord, vous surveillez, est-ce que mon père qui est décédé n'avait pas des prières, n'avait pas délaissé des jeunes qu'on va essayer de compenser. Mais voyez également s'il ne devait pas de l'argent à une autre personne. Si on savait que papa devait 1000 euros, 2000, 3000, il avait une facture, il avait un compte ouvert dans telle entreprise, telle société, vérifiez que le défunt n'a pas laissé de dette. Parce que ça, c'est impardonnable. Comment voulez-vous qu'Allah nous pardonne un mal qu'on a fait à quelqu'un d'autre? Ça aurait été là déjà une injustice de la part d'Allah. Et voyez également si nos parents décédés n'avaient pas eu de problème, n'avaient pas froissé d'autres personnes. Dans le cas où ça se vérifie, demandez pardon à la famille un tel, dit mon père, vous avez peut-être fait du tort, je vous demande de lui pardonner. Accordez-lui votre pardon, au moins Allah ne le punira pas dans sa tombe. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que l'islam recommande, après le décès des parents, garder de bonnes relations. Je ne dis pas avec la famille des parents, parce que la famille des parents, c'est notre propre famille. Gardez des bonnes relations avec les amis de votre père, de votre maman. Gardez de bonnes relations avec les amis de nos parents, ceux de leur génération. Ça nous permettra d'être corrects envers eux, et au cas où également, s'il y a eu des petits soucis, hein, ils nous en parleront, et on demandera maaf pour nos parents. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un héritier, un fils ou une fille peut faire pour ses parents décédés, que de faire en sorte que quand ils quittent ce dunya, ils mettent les comptes à zéro. Concernant les ribadas, mais également concernant les droits des gens. Et par opposition, voyez comment c'est grave le mauvais comportement ou l'oppression. Et par opposition, c'est là qu'on comprend quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la chose qui pèsera le plus lourd dans la balance au jour des comptes, ce sera le bon comportement. Il y a des fois, on se dit, ouais, ben le bon comportement, ne tout agit bien, ne tout est gentil, fait salam, il sourit. Alors, ben, c'est ça qui sera le plus loin dans les comptes. Ben, dans ce cas, pratiquer la religion, c'est facile. C'est pas aussi facile que ça. D'être correct et réglo avec tout le monde, avec papa, avec maman, avec les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, madame, les enfants, les voisins, les musulmans, les non-musulmans, avoir un comportement irréprochable que personne n'ait quoi que ce soit à vous dire, celui qui atteint ce niveau, c'est vraiment un haut niveau. C'est pour ça que cette action-là, elle est énorme pour Allah et qu'elle pèsera extrêmement lourd dans la balance. Subhanallah, en allant à la madrasa, écoutez, في السيرمون خطبة d'un des imams de Medina, Cheikh Abdul Bari Thubayti, Allah yahfadhu wa yashfi shifan kamila, disait, il citait un hadith, ce hadith, subhanallah, hadith parfois qu'on connaît, mais quand on écoute, hein, ça fait un électrochoc sur les cœurs. Il dit qu'il y aura un homme qui se présentera devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, et Allah lui demandera quelle action tu as accompli. La personne va dire que, oh Allah, ce que je faisais dans ce dunya, c'est utiliser tes biens dans le droit chemin. J'étais un homme riche, tu m'as accordé la richesse. Et les gens venaient, ils empruntaient l'argent avec moi. Et moi, je prêtais aux gens. Bien sûr, prêter sans intérêt, il n'y a pas besoin de préciser. Je prêtais l'argent aux gens. Et les gens me remboursaient. Mais il y a des gens qui n'arrivaient pas à me rembourser. C'était des gens démunis. Et quand je voyais leurs conditions, je pardonnais. Hein, je pouvais repousser l'échéance. Ou alors je diminuais leur dette, ou il y a des fois où je passais l'éponge, hein, je gelais leur dette. Et Allah est tellement satisfait de ce comportement qu'Allah ordonne aux anges de lui faire entrer au paradis par rapport à cette bonne action qui se distingue de toutes les bonnes actions. Dire que ce genre d'action, le bon comportement vers les gens, al-ihsan, la bienfaisance envers les gens, c'est vraiment une des choses les plus appréciées par Allah. Alors que quand on trompe les gens, quand on agit mal envers les gens, c'est quelque chose qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous du hadith Qudsi, lorsqu'Allah ta'ala dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, hadith, pas hadith Qudsi, hadith dans lequel le Prophète dit arhamu yarhamuhum ar-Rahman, ceux qui ont de la compassion vers le prochain, ceux qui ont la pitié de la compassion envers leur prochain, c'est eux qui bénéficieront de la pitié d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Comprenons. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ayez de la compassion, de la pitié envers les gens de ce dunya, yani, c'est-à-dire avec les gens que vous fréquentez, agissez bien, soyez gentils, compatissants avec eux et faites preuve de largesse. Ayez pitié pour les gens, et ceux qui sont dans les cieux, eux aussi auront de la compassion, de la pitié pour vous. Ceux qui sont dans les cieux, et en premier, Allah Akbar, Allah Azza wa Jalla, notre Créateur. Et ensuite, les malaïka, eux aussi, ils auront de la compassion envers nous. Donc ça, c'est la clé de toute chose, la bienfaisance envers les gens. Et la pire des choses, c'est al-mutaffifin, celui qui trompe, celui qui est injuste dans son comportement envers son prochain. Donc, pour ne pas être parmi les mutaffifin, il faut que je sois un bon commerçant, si je suis commerçant. Ou que je sois un bon mari, si je suis marié. Je sois un bon papa, si je suis père de famille, et ainsi de suite. Tant je réclame mes droits, je dois également être juste dans mes devoirs envers mon prochain. Et la petite séquence qu'on avait dit qu'on laisserait quand on aura nos soeurs, mères et soeurs présentes, c'est le Moufassil dit également que le prophète alayhi salatu wassalam avait beaucoup insisté sur les devoirs du mari envers son épouse. Il dit que الذين يفرطون في حق أزواجهم عليهم أن يتقوا الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. Il avait parlé donc des droits mutuels entre mari et femme. Très souvent on se dit que ma femme a des devoirs envers moi, mais on oublie que moi, mari, j'ai également des devoirs envers mon épouse. C'est dans les deux sens. Il dit que quand un mari agit mal envers sa femme, ce mari-là doit se rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam avait insisté sur les droits des femmes dans le plus grand rassemblement de toute sa vie, lors du pèlerinage d'adieu, lors du wukuf de Arafah. Le serment du wukuf Arafah, c'est très connu. D'accord ? Dans ce serment-là, le Prophète m'a dit « Ittaqullah finnissa, ô musulmans, craignez Allah dans vos épouses. » Parce que c'est Allah qui vous les a donnés et vous les avez obtenus dans votre mariage en prononçant le nom d'Allah. C'est en prononçant le khutbah du nikah par le nom d'Allah que vous avez pu obtenir cette femme-là dans votre mariage. Donc « Ittaqullah finnissa, dans le plus grand rassemblement et le plus important et un des derniers grands discours de sa vie, le Prophète a rappelé encore une fois aux musulmans les droits de la femme par rapport à son mari, les devoirs du mari envers son épouse. هذا. Le verset suivant, et pour compléter ce qu'on devait faire ce soir, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Cela ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? C'est-à-dire, après qu'Allah décrit une catégorie de personnes avec une mise en garde, wail, attention à ces gens-là, aux fraudeurs, et Allah décrit ce qu'ils font, jusqu'à le troisième verset, et là Allah Ta'ala met en garde, attention, ô vous qui agissez de la sorte, Allah yadhunnu laika annahum mab'uthun. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas réalisé qu'un jour ils seront ressuscités et ramenés devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala? On avait dit que la description, la mise en garde, les conséquences de ces actions passent par trois étapes. La première étape, c'est lorsqu'Allah Ta'ala rappelle qu'ils seront un jour ressuscités. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? C'est déjà là un rappel. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il doit se rappeler qu'un jour je vais être ressuscité. Il y a des gens qui se disent, hein, il faut profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents. Enjoy your life, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Celui qui dit ça, enjoy your life, fais tout ce que tu aimes, cette personne-là n'a pas conscience ou ne réalise pas ou ne croit pas qu'un jour il va être ressuscité. Donc le premier appel, c'est que la personne qui transgresse les ordres d'Allah en étant injuste envers les gens, en trompant les gens, que la personne se rappelle qu'un jour il va être ressuscité. Première partie du rappel. Deuxième partie du rappel. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Allah précise que ce jour-là où vous allez être ressuscité, c'est un jour terrible. Allah qualifie ce jour de terrible. Comme dans notre verset, notre sourate, Allah dit: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Le même terme utilisé, le terme terrible. Et pour qu'Allah définisse, qualifie cet événement de terrible, c'est que vraiment c'est quelque chose d'énorme, d'insoutenable pour un être humain. Deuxième rappel donc, Yawmin Azim. Et troisième rappel, Allah Azza wa Jal rappelle à ces gens, vous serez ressuscités. Ça va être un jour terrible. Et pourquoi c'est terrible? Parce que يَوْمَ يَقَوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Parce que ce jour-là, vous vous tiendrez debout devant le Seigneur de l'univers. Et les mufassirin disent que quand on fait un rappel à notre prochain qui est dans l'erreur, par exemple, j'ai un ami, je sais que son problème c'est la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Il consomme le zamal, il touche telle chose régulièrement, ou alors il a un faible pour les femmes. Il vaut mieux avoir un faible pour les femmes que pour les hommes, hein, dans les temps qui courent. Ouais. Mais Dieu manque que ça se concrétise dans le halal. On connaît que quelqu'un, subhanallah, son péché c'est ça. Il sort avec les filles, il a toujours ce problème, d'accord? Comment lui fait le rappel? Est-ce qu'on lui fait le rappel en l'insultant? Ça pas honte, tu es un zani, tu n'es qu'un voleur, espèce d'alcoolique, espèce de drogué, tu es un musulman, tu es drogué, tu n'as pas peur de l'enfer, tu es... Si vous faites le rappel de ce sens, la personne non seulement ne va pas revenir dans le droit chemin, la personne va vous border complètement, elle ne voudra même plus vous voir. Par exemple, dire à la fin du Coran, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si le prophète avait été dur envers les sahabas ne seraient pas venus avec le prophète. Les Mufassirin disent que la meilleure façon de faire un rappel, c'est de parler calmement, avec sagesse, compassion avec cette personne, et de le rappeler que un jour, mon frère, on va être ensemble, toi et moi, devant Allah. Et qu'est-ce que tu vas dire à Allah par rapport à ce que tu fais? C'est-à-dire, c'est ta vie, tu es en droit de le faire. Tu es un homme libre. Tout comme je suis libre, je vais à la mosquée, alhamdoulilah, je ne vais pas, c'est ma liberté d'être humain. Mais mon devoir envers Allah m'appelle vers la mosquée. Tout comme ton devoir envers ton créateur, c'est de ne pas faire ces choses qui sont haram. Cette fille, elle est belle, elle est très jolie. Tu es fou amoureux de cette fille. Elle est musulmane comme toi. Ben, plutôt que de la fréquenter, de lui tenir la main, de lui faire la bise, de sortir ensemble, etc., etc., mon frère, fais une demande en mariage, concrétise cette union, cette fréquentation, par le nom d'Allah. Et la relation deviendra licite. C'est ce qu'on appelle taqdimul badal. Dans la da'wa, on appelle ça proposer la solution licite. Et que donc, quand quelqu'un est dans l'erreur, on le rappelle ça, son identité de musulman.
On lui rappelle ses devoirs envers Allah. On lui rappelle les étapes de l'au-delà. Et on ne lui dit pas uniquement « fais pas le péché, c'est pas bon ». On lui propose une solution de rechange. Parce que la nature humaine est ainsi. Si j'aime cette fille, j'aime Fatima, ou j'aime Aïcha, je suis fou amoureux d'Aïcha. J'ai 18 ans, je suis lycéen. Elle est dans ma classe, j'ai encore plus 18 ans, 17 ans plutôt, je suis lycéen. Je suis fou amoureux de cette fille, d'accord? Le Moulissab, le Foundi, vient, il me dit que ça c'est zina, ça c'est interdit, etc. Tu ne dois plus fréquenter la fille. Ben, je veux bien, mais mon cœur, j'ai un cœur quand même. Il y a des sentiments dedans. Je ne peux pas mettre ça dans la corbeille. Je ne suis pas un ordinateur où on met mes sentiments dans la corbeille, on met de la corbeille. Ça ne se passe pas comme ça. Mes yeux ont l'habitude de voir cette fille, mes oreilles d'entendre sa voix, etc. Et d'autres choses encore. Comment est-ce que je peux l'oublier du jour au lendemain? Donc on va dire, on va proposer la solution. L'islam a interdit l'adultère, la fornication, les relations extra-conjugales, mais l'islam a autorisé le mariage. Une personne a comme vice, comme problème, le vol. Une personne aime les belles choses. Donc il fait ce que nos jeunes du quartier là-bas, ils appellent business. Ils n'appellent pas ça voler business. On va dire, cela gagne une lunette au clé. Une lunette au clé coûte 150 euros. Pour ça, une lunette au clé, ça se prononce au clé, même ou à clé, bref. Il dit que, comment on vient acheter ça? Nous-mêmes, on ne peut pas acheter. Il dit business, ça, oui, ça, business. Pour ça, tiens, basket Nike là. Il y a des élèves qui viennent avec des survêtements, Lacoste, de la tête aux pieds. Il vaut 2500 euros. Depuis sa casquette, jusqu'à son petit sac, la marque italienne ou française, j'ai oublié là, son survêtement Lacoste, ses chaussettes, ses baskets, il vaut 2500 euros. Alors qu'il ne peut pas payer 10 euros à la madrasa. Il dit, mais comment tu... Business, yani voler. Yani des gens qui volent. On connaît non, dans tous les quartiers, ça se passe comme ça. Bref, je connais que la personne, son problème, c'est ça. Elle aime les belles choses parce que pour la société, elle a besoin de montrer que bon, il est encore au niveau. D'accord? J'explique. Et on lui propose une solution. Ben voilà, ben, telle personne, tel commerçant, hein, il recherche quelqu'un pour travailler, il a besoin de quelqu'un pour faire telle chose, ben va faire un petit boulot. Avec le petit boulot, tu auras 150 euros, 60 euros par jour, et au bout d'une semaine, tu peux acheter telle chose, c'est-à-dire proposer une solution de rechange. Quand on parle d'une personne qui est addict à l'alcool, on va lui dire que, ben écoute, ben Allah Azza wa Jal a autorisé plein d'autres choses. Tu peux consommer telle chose, du jus, on lui montre qu'il y a plein de choses licites. Mais ça, c'est licite par rapport à telle chose. Ça, c'est un principe. Ah. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, une version, on le retrouve. Donc, les mises en garde passent par trois étapes. Rappeler aux gens qu'un jour ils sont ressuscités. Deuxièmement, que c'est un jour terrible parce qu'on sera debout devant Allah. Donc, ces trois étapes-là, c'est pour que la personne prenne réellement conscience qu'il faut arrêter ce péché. Et donc, dans la prêche envers une autre personne, on doit utiliser ces arguments, mais également dans la prêche envers nous-mêmes. Comment on se prêche nous-mêmes? Bon, on réfléchit. Quand je vois que je fais un péché, je dois me rappeler qu'un jour, je vais mourir. Un jour, je vais être présenté devant Allah. Ce jour-là, c'est terrible. Je vais être devant Allah, il va m'appeler par mon nom, le nom de mon père, il va me présenter mes actions. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, à chaque fois qu'on est tenté vers un péché, je dois me rappeler de cette chose. Je suis jeune, j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon permis, namasti à fond. Mes amis me proposent, allons Saint-Gilles samedi soir, on va s'amuser un petit peu. Je me dis que, attention, je m'appelle Ismaël, je m'appelle Ishaq, je m'appelle Mohamed. Je suis avant tout un musulman. Et un jour, je vais être ressuscité. Le jour de Kiamat, on rigole pas là-haut. Je vais être devant Allah. Qu'est-ce que je vais répondre à Allah par rapport à ce choix? Donc ça, c'est un mécanisme extrêmement important qui permet à un croyant de sortir d'un péché. Parce que ces gens-là, ils sont dans Mutafifin, dans la fraude, de sortir d'un péché par une prise de conscience, ou alors de ne pas entrer dans un péché, de ne pas commencer une erreur, ou même, d'une façon ils disent, de ne pas manquer à une obligation. On est dimanche matin, la prière, elle est ici, c'est à 5h30. Je me réveille, mon réveil sonne à 5h20. Je me dis que c'est l'heure de la prière, alors ça là, je me dis qu'aujourd'hui dimanche, je ne travaille pas, j'étais à la masjid du lundi, lundi 8 jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi, toute la semaine, un jour, Allah va me pardonner, je rabats la couverture sur moi et je suis tenté de redormir. Là, je me rappelle également qu'un jour, je vais être ramené devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est extrêmement important. de toujours se rappeler de s'évincer dans les moments où on est tenté d'accomplir quelque chose de mauvais. Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah. On a fait nos 40 minutes, non, c'est entre 40 et 45 minutes. On a fait nos 45 minutes, on a vu un petit peu le principe, l'important du tafsir, le fait qu'Allah a révélé ce Coran pour être lu, pour être récité dans la prière, pour être écouté, mais également pour comprendre le sens des versets et l'objectif final, c'est de le mettre en pratique. Les différentes étapes, on peut le faire. On peut assister à un dars, un cours où quelqu'un vous apprend le Coran. Ça, c'est possible. Notre travail à nous dans ce programme de tafsir pour hommes et dames, c'est de faire passer la traduction, que les gens comprennent ce qu'Allah a dit littéralement et d'aller plus loin dans le sens profond des versets pour extraire les leçons de vie, les leçons de foi, les leçons pour chaque musulman et chaque musulmane et enfin et méditer sur ses sens. Et la dernière étape, elle est dans vos mains. Ibnillah, c'est la pratique, le fait de mettre ces actions-là, ces recommandations en pratique. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine aussi, toutes les semaines, tous les vendredis soirs, on fera deux versets, trois versets par jour. On pourra parfois aller un peu plus vite. Il y a des fois où ce sont des versets importants, on va s'attarder. La prochaine fois, on va parler de la description de l'au-delà. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Yawmun Azim? Et on va voir les hadiths cités par Ibn Kathir, rahimahullah, en commentaire de ce verset. Quelles sont les étapes qui sont terribles, les étapes le plus Dieu de l'au-delà et pourquoi un homme doit en permanence se rappeler de ces étapes. Et on voit que le prophète sallam tous les jours il se réveillait qiyamul layl, il commençait en disant subhanallah, allahu akbar, alhamdulillah, allahu akbar, et il demandait protection à Allah contre les difficultés de l'au-delà. Donc moi musulman, il demandait istighfar régulièrement. Donc moi musulman, en permanence je dois me rappeler de l'au-delà et ne pas me laisser tromper par les plaisirs de ce monde et même par la routine de ce monde. Ça ne doit en aucun cas me faire oublier les étapes de la qu'Allah me donne à moi-même et à nous tous t'offrir de comprendre ces quelques paroles, hein, d'en tirer les leçons, de mettre en pratique dans nos vies, de propager à nos mères et à nos soeurs. Une deuxième annonce, bonne nouvelle, 2013 ça va être l'année des actions pour hommes et dames mixtes, Inch'Allah. On va faire profiter les soeurs de du maximum d'enseignement dans quelques temps, dans le mois de février, Inch'Allah, le mercredi soir. On va ouvrir, Inch'Allah, une session de quad arabe pour hommes et dames. Les quad arabes, ça se fait déjà, hein, le jeudi soir, on le fait au centre culturel pour les messieurs depuis pas mal de temps, de 3 ans à peu près. Inch'Allah, on va redémarrer à zéro les quad arabes, une autre session pour débutants, mais là, ce sera pour hommes et dames. Bien sûr, avec une séparation, hein, en respectant les principes, mais là, si une dame veut apprendre l'arabe, il y a certes des madrassas, hein, pour dames au centre-ville, mais si quelqu'un ne peut pas se libérer, elle veut apprendre l'arabe avec son mari, c'est là également une opportunité. C'est hujja. Hein, vraiment, personne ne pourra dire qu'il n'y a rien pour les dames. Non, il y a les quads arabes, il y a les quads tafsir. Et à Montreuil aussi, il y a des programmes. Mufti Luqman Aga le fait pour hommes-dames. Donc, on essaie d'ouvrir nos mosquées à nos mères et à nos soeurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen wa athra da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zakum.